Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pochet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. De nouvelles images de l'agression de Quentin. Les témoins appuient la thèse d'une implication de l'ultra-gauche dans la mort du militant nationaliste à Lyon. Les familles de patients veulent que les choses s'accélèrent enfin. La loi fin de vie et son aide à mourir reviennent à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et après l'entraîneur, c'est le directeur du football de l'Olympique de Marseille qui démissionne. Mehdi Benatia a claqué la porte hier.
Mais d'abord ce constat, les enfants reçoivent leur premier smartphone de plus en plus tôt.
Entre 8 et 10 ans pour plus de la moitié d'entre eux, c'est un chiffre issu du rapport publié ce matin par la Fondation de l'Enfance. Malgré leur âge, un quart profite pour alterner entre réseaux sociaux et jeux en ligne, Louise Salé.
Après l'école, Yasten, 10 ans, joue avec ses copains, mais en ligne sur le réseau social Roblox.
Des fois, je regarde YouTube et des fois, je joue à Roblox. Une heure, pas plus.
Et comme presque trois quarts des parents interrogés, Lorelai confie avoir un peu de répit quand son fils a un portable en main.
Ça permet d'être tranquille, mais aussi sur son téléphone, je peux mettre une appli qui me montre exactement quand il sort de la maison, quand il arrive à l'école, où il est sur la carte.
La moitié des parents se servent du smartphone pour géolocaliser leur enfant et ils sont 7 sur 10 à avoir installer un contrôle parental, ce qui n'empêche pas les écrans de s'immiscer dans de nombreux moments clés de la journée pour tous les enfants de moins de 15 ans. Joël Sikamois dirige la Fondation pour l'enfance.
Au petit déjeuner, par exemple, c'est encore 20% des enfants qui sont sur leur téléphone. Au moment du coucher, qui est quand même, on le sait, un moment à sanctuariser, notamment pour le sommeil, c'est 30% des enfants qui sont sur leur écran. Et ça va finalement réduire la capacité de l'enfant à apprendre et à se concentrer.
Paradoxalement, les jeunes approuvent en grande majorité le contrôle parental, ils sont même un tiers à vouloir davantage de temps sans écran à la maison.
Louis Salé pour RMC. Vigilance rouge crue maintenue ce matin dans le Lot-et-Garonne et la Gironde. 14 autres départements sont en orange. Notez aussi que 8 départements sont en alerte orange avalanche dans les Pyrénées et les Alpes du Nord. De l'autre côté de la frontière, à Courmayeur en Italie, 2 skieurs ont perdu la vie dans une coulée hier. Probablement des Français, disent les autorités. Dans l'affaire Quentin, le gouvernement accuse l'ultra-gauche. Elle était manifestement à la manœuvre lors du lynchage jeudi du militant nationaliste à Lyon. Ce sont les mots hier du ministre de l'Intérieur. De nouvelles images dévoilées par nos confrères de BFM TV semblent aussi abonder en ce sens, Ameline Lafchin.
Sur des vidéos filmées par des témoins, on distingue un homme, Quentin, gisant au pied d'un lampadaire après avoir été roué de coups. Maxime, habitant du quartier, a assisté à l'agression depuis son balcon.
J'ai vu tout un tas de mecs en noir. J'ai entendu crier « nazis, fachos, c'est des nazis, c'est des fachos, antifa ». Et après, en fait, j'ai vu Quentin, je pense que c'est Quentin qui s'était tabassé juste là. À 15 contre 1, c'était violent.
Une scène de violence dont a aussi été témoin cet autre habitant, alerté par les cris.
Coup de pied dans la tête, coup de poing. Après, ouais, coup de pied dans la tête quand je l'étais au sol. Ils voulaient l'éteindre, clairement. Ça allait vite, hein. Une fois, dès qu'ils ont vu qu'il était inconscient, ils sont tous partis en courant. Ouais. Lui, il s'est relevé de lui-même. Il perdait du sang du visage. Il repart en marchant, en titubant, en direction des quais, là, comme ça.
2 kilomètres plus loin, Quentin est pris en charge par les secours, souffrant d'une hémorragie cérébrale, avant de mourir samedi soir à l'hôpital.
Et de son côté, la Jeune Garde, ce groupe antifasciste dissous en juin, assure n'avoir aucune responsabilité dans ce drame. Le parquet de Lyon tiendra une conférence de presse à 15h. Il dit avoir reçu des témoignages significatifs. Laurent Nunez, attendu en Algérie aujourd'hui, un voyage important pour renouer le dialogue, dit le ministre de l'Intérieur. Le programme de ce déplacement en détail dans le journal de 8h. Après son rejet par le Sénat le mois dernier, la loi fin de vie revient à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, elle comprend la création d'un dispositif d'aide à mourir, ballotté depuis 2022 entre refus d'une large partie de la droite et report des débats à cause de l'instabilité politique. Alors Caroline Renaud, les familles de patients en fin de vie et les associations commencent à trouver le temps long.
Rongé par un cancer incurable, au bout de ses forces après plus de 10 ans de traitement, Renaud se souvient encore des derniers mois de vie de sa femme.
Elle est sous oxygène, hein. Elle ne veut pas souffrir.
Faute de loi sur la fin de vie en France, elle prend rendez-vous en Belgique, là où l'euthanasie est autorisée.
La dernière parole qu'elle fait au docteur, elle lui dit « vous me sauvez la vie ».
Alors pour les patients qui souffrent encore, Renaud demande aux députés de ne plus trop tarder.
Il faut penser aux malades, parce que ces gens ont le droit de partir, ça leur appartient.
Et même si le texte prévoit un encadrement très strict, strict de l'aide à mourir.
Il faut légiférer, même s'il est imparfait, il faut bien commencer par un bout, quoi.
Même impatience du côté de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, Jonathan Denis, son président.
Moi, je n'en peux plus de devoir être dans un pays qui abandonne certains de ses concitoyens sur le bord du trottoir. Ce temps long des débats, c'est du temps que certains malades n'ont plus. Des malades qui demandent qu'on évolue enfin sur la loi et qui le demandent depuis 40 ans.
Il craint de nouveaux amendements par centaines à l'Assemblée nationale. Il n'est plus temps de débattre, mais de faire, dit-il aux députés.
Caroline Renaud pour RMC. Il est 7h37 sur RMC. Le foot et ce nouveau coup de tonnerre à l'Olympique de Marseille, moins d'une semaine après le départ de l'entraîneur Roberto De Zerbi, autour du directeur du football, Mehdi Benatia, d'annoncer sa démission en pleine crise de résultats, Valentin Jamin.
Oui, ce départ assombrit un peu plus l'avenir à court terme de l'OM, car c'est Mehdi Benatia, même s'il a demandé à partir il y a une semaine, qui a initié les recherches du futur entraîneur pour Marseille ces derniers jours en tant que directeur du football et proposé notamment le nom d'Habib Bey. Ce dossier doit maintenant être géré par Pablo Longoria, le président en première ligne. Entre lui et Benatia, le courant ne passait plus vraiment. Le trio qu'il formait avec l'entraîneur Roberto De Zerbi a explosé en une semaine. L'avenir de Longoria est flou, sa réaction attendue. Il est contesté par les supporters qui l'ont visé sur des banderoles, tout comme le propriétaire Franck McCourt. Ce dernier a essayé de raisonner Mehdi Benatia et il va devoir se positionner, s'exprimer, puisque son club est sur un fil avant de se rendre à Brest dès vendredi.
Et ce résultat en Ligue 1 hier, la 13e victoire consécutive de Lyon. 2-0 contre Nice pour conforter la 3e place des Lyonnais. Et puis la France peut dépasser aujourd'hui son record de médailles aux JO d'hiver. Elle l'a égalé hier en portant son total à 15. Et on a de bonnes chances, notamment sur le slalom homme dès 10h.
Et puis les courses, le quintet c'est à Vincennes aujourd'hui.
Départ 13h55, la Dream Team des courses RMC vous conseille de jouer son favori, le 13 Competitivo, et son outsider, le 15 Sandokan. Le 13 et le 15.